Bonjour et bienvenue dans le podcast À la découverte de soi de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Il y a un homme dans la Bible qui veut rebâtir les murailles de Jéricho et la porte. Ses deux enfants, l'aîné et le cadet, vont mourir parce que leur père veut construire. Quand ton père dit « je construis », le diable se lève pour dire que ça va te coûter tes enfants. En fait, je vais vous choquer. Toi qui veux faire des affaires, toi qui veux construire, toi qui veux réussir, tu ne comprends pas que ce que tu fais, de toutes les façons, va affecter ta progéniture. Et tu trouves encore l'idée de ne pas amener tes enfants à l'église. Tu viens seul à l'église, tu as des enfants, tu n'arrives pas à les emmener à l'église parce que tu te dis de toutes les façons, c'est moi, tant que je réussis, ça va. Non, parce qu'eux, ils vont subir les attaques de ta destinée et de la leur. Les parents ont mangé les raisins verts, les enfants ont les dents agacées. Est-ce que vous savez que vous avez des combats qui sont dus à vos parents? Non, pour de vrai, est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que même quand vous réussissez, vos enfants sont victimes de votre succès? Il devient ministre. C'est un exemple, c'est pas ça. Lui, il a un autre appel. Non, il n'y a pas d'amen sur lui. Mais il devient ministre. C'est le succès, c'est la réussite aux yeux des gens. Mais automatiquement, la population gabonaise va avoir son regard sur lui. Et quand lui, il fait n'importe quoi, même si ses enfants sont en France, les Gabonais vont aller chercher ses enfants en France. Ce n'est pas eux qui sont ministres. Ils n'ont jamais mangé l'argent du pays. Tu es DG, tu réussis. Tes enfants goûtent à ton succès, bénéficient du fait que tu réussisses. Quelqu'un va être jaloux de tes enfants. Vous ne m'entendez pas. Ce que j'essaie de dire à quelqu'un, c'est que si tu ne prends pas ton destin et celui de tes enfants au sérieux, vous allez perdre du temps collectivement. Je vais dire ça, c'est pas grave, même si je ne dis pas tout ce que j'ai écrit. Aujourd'hui, tu as des enfants. Tu es mère célibataire, tu es père célibataire. Un, eux, ils ne t'ont pas choisi. Et ils n'ont pas choisi leur mère. Qui a choisi? C'est toi. Ça veut dire que si le papa est bad, c'est de ta faute. Si la maman est bad, c'est de ta faute. Tous, c'est pas grave, tous, ça va aller. Pire, maintenant tu es chrétien, tu dois choisir, tu veux te marier ou te remarier. Et toi, tu vas encore aller prendre un morceau de viande. Simplement parce qu'il a l'argent. Ou parce que, ah, elle chante. Ou parce que, non, elle est belle. On épouse le destin. Non, non, le destin. Qui connaît l'histoire de Cendrillon? Le problème de Cendrillon, c'est que son père a épousé une mauvaise belle-mère. La vie de Cendrillon prend une autre tournure quand son père se remarie. Elle a perdu sa mère, elle n'a que son père. Le choix de son père, parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que l'esprit qui a pris sa mère va prendre son père. Avant de mourir, le choix qu'il trouve à faire pour sa fille, c'est d'aller épouser une sorcière. Lève ta main droite, dis père. Avant de partir de cette terre, je laisserai un héritage à mes enfants. Aux enfants de mes enfants. Je ne leur laisserai pas de problème. Au nom de Jésus. Levez-vous. Merci. La raison pour laquelle je veux qu'on prie ce soir, c'est parce que je me suis rendu compte que si Dieu doit nous restaurer en famille, il doit y avoir quelque chose que Dieu fait. Et je vais terminer, écoutez-moi bien. Je ne vous ai pas dit ce que j'ai dit au premier, mais ce n'est pas grave. J'essaye. Je ne vais pas développer. Si on doit nous rendre notre vitesse, si on doit nous restaurer, si Dieu doit nous restaurer, nous rendre les années, moi je veux d'abord savoir pourquoi on les a perdues. Qu'est-ce qui t'a fait perdre du temps? Qu'est-ce qui te fait perdre du temps? Suivez-moi. L'une des choses, il y en a plusieurs, mais l'une des choses qui fait perdre énormément de temps, c'est le manque de discernement. Le fait d'être aveuglé, le fait d'être voilé dans les décisions importantes ou sur les décisions importantes. Mon frère, Jacob a perdu 7 ans en une nuit. Il prend une femme. Quand il a fini de consommer le mariage, il se réveille. Il regarde, c'est Léa. Qu'est-ce qui fait que tes yeux ne se soient pas ouverts avant de consommer? Parce que tant que tu n'as pas consommé, tu peux dire, bah, je ne veux pas. Ce n'est pas elle que j'ai dit que je voulais épouser. Écoutez-moi bien, ça veut dire que si le diable doit vous emmener à perdre du temps, il doit vous emmener à faire des choix importants dans la nuit. Quand vous ne voyez pas clair, ne prenez pas de décision importante. Quand vous ne voyez pas clair, ne faites pas de choix qui vont engager vos enfants. La deuxième chose, je vous donne une clé supplémentaire. Comment on appelle ça? Carelessness. L'insouciance, la nonchalance, la négligence. Écoutez-moi bien. En réalité, il y a 3 façons de prendre des décisions, du moins. Il y a 3 sources pour les décisions. Il y a les émotions, il y a l'intellect et il y a l'esprit. Quand vous prenez des décisions sur la base de vos émotions, vous êtes quasiment sûr de vous tromper. Je prêche mieux que tu ne dis amen, mais ce n'est pas grave. Écoute-moi bien, ta colère, ce n'est pas un bon baromètre pour décider. Les émotions ne sont pas une bonne source de décision parce qu'elles ne sont pas stables. Regarde ton voisin rapidement, dis-lui, on ne prend pas de décision importante sur le coup des émotions, sous le coup des émotions. Oh non, je change de filière. Oh non, je déménage. Oh non, je le plaque, je la plaque. Oh non, je quitte de la maison de mon père. Deuxième source, c'est l'intellect. L'intellect est plus stable que les émotions. Mais l'intellect a quand même le problème que votre décision doit être basée sur des faits. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir des éléments bien définis pour pouvoir décider. Oh Dieu! L'esprit est supérieur aux émotions et à l'intellect. Parce que l'esprit vous permet de voir ce que l'intellect ne voit pas. Et ce que les émotions ne ressentent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je conclue, c'est fini. C'est pas grave. Si Dieu doit restaurer la famille et nous rendre les années qu'ont dévoré les sauterelles, suivez-moi. Dieu doit commencer par quelqu'un. Parce que le problème, c'est que toute la famille n'est pas prête à se modifier. Et tu ne dois pas, tu ne peux pas attendre que la famille soit prête à se modifier pour que toi tu changes. Voici la pensée que Dieu m'a donnée. Bien. Si Dieu veut restaurer Jacob, Israël, Dieu doit se servir de Joseph. Et Joseph doit accepter de perdre pour que sa famille gagne. Il est chassé, vendu, accusé à tort, en prison, finalement au palais. Mais quand il est au palais et que 13 ans plus tard, il revoit ses frères, il leur dit, vous aviez voulu me faire du mal, prévu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ce n'est pas juste ça. Ça, c'est ce qui le concerne. Mais maintenant, il va plus loin. Il donne la révélation suivante. C'est à cause de vous que Dieu m'a emmené ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, pour que Israël soit restauré, Joseph a été vendu et est devenu ce qu'il est devenu pour qu'il puisse faire gagner du temps à sa famille. J'essaye de dire que si tu acceptes de te modifier et tu permets à Dieu de faire ce qu'il veut faire par ta vie, même si tu ne peux pas sauver ceux qui sont de ta génération, mais tu es en train de travailler pour permettre que la génération qui suit ne commence pas dans les tables, ne commence pas dans la rue. Cet après-midi, on va prier. Je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire, j'ai énormément de notes. Pourquoi on doit prier? Parce qu'il n'y a rien de visible qui ne commence par l'invisible. Et on doit vous emmener dans des sphères spirituelles où on va chercher ce que vous avez perdu. Voici ce que Dieu m'a dit. Un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un. Si un accepte d'être pour tous, c'est que tous doivent accepter d'être pour un. La famille, nos familles, ta famille, a du mal à vivre la restauration que Dieu veut lui donner. Parce qu'elle manque de discernement sur la personne qui est le un. Tant que la famille n'arrive pas à discerner sur qui repose l'huile, la royauté, qui est la solution, qui est notre Joseph, la famille mourra de faim. J'essaye de te dire qu'il faut que toi, dans la famille dans laquelle tu es, tu pries que Dieu garde tes yeux ouverts. Parce que peut-être tu n'es pas le Joseph. C'est jeudi que le révérend Richard dit, Pierre, la raison pour laquelle ta foi ne va pas faillir, c'est parce que tu dois fortifier les autres. Tu dois les affermir. Donc en réalité, la raison pour laquelle je prie pour toi, ce n'est pas parce que je veux que toi seul sois sauvé. C'est parce que je sais qu'en priant pour toi et en te sécurisant, je sécurise la pierre angulaire, je sécurise la personne qui va fortifier la famille. Dans cette saison, c'est ma prière pour lui, c'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour nous. Que Dieu nous donne d'avoir du discernement. Écoutez-moi bien, je suis en train de conclure, merci, Dieu te bénisse. L'une des choses que je plains dans la vie, et j'en suis de plus en plus conscient, et ça me fait de plus en plus mal, c'est que je rencontre des gens, semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, année après année, je vous parle régulièrement. Ce qui me fait mal, c'est de voir comment vous manquez de discernement. Vous savez, si vous n'arrivez pas à savoir qui Dieu vous a donné, vous allez perdre. Il y a des gens dans la vie, il ne faut pas les perdre. Je le dis pour vous, je le dis pour moi. Je dis qu'il y a des gens, si vous les perdez, vous perdez du temps. L'évêque général est mon père, depuis des années maintenant. Aujourd'hui, je le comprends mieux que par le passé, mais il a toujours une longueur d'avance sur moi, c'est clair. Sauf que, même quand à l'époque, je ne comprenais pas, j'étais blessé. Est-ce que j'ai le temps? J'ai plus le temps. J'ai écrit un email, je vais dire ça. S'il était là, il allait me regarder, mais ce n'est pas grave. J'écris un email. Je suis aux États-Unis. Mon père et ma mère sont encore en vie, mais c'est vraiment lui mon guide. Et je suis à Christ pour les Nations, où il a été avant moi, et je lui écris un email. Et je lui écris un email, lui et l'évêque Nadia individuellement. J'écris aujourd'hui un paragraphe. À l'époque, c'était plusieurs paragraphes. Ils me répondent, parfois une semaine, deux semaines plus tard, avec une phrase. Email. Donc tous les jours, j'allais voir l'email, j'ai pas de réponse. Tous les jours, j'allais voir l'email, j'ai pas de réponse. Quand j'ai la réponse, je suis profondément déçu. Profondément. Et puis à un moment, j'écris, et j'avais pris l'habitude avant, quand j'étais à Port-Gentil, de demander avant de prendre des décisions. Et puis quand je suis à l'étranger, j'essaye de communiquer, mais je vois qu'ils ne réagissent pas. Ça me blesse, mais profondément blessé. Comme je suis intro, je gère de manière introvertie et je passe à autre chose. À partir de ce moment, sans l'avoir dit, sans même peut-être moi-même l'avoir réalisé, je décide de prendre mes décisions tout seul. Écoutez-moi. Je voyage, je vais prêcher au Mexique, je vais prêcher en Australie, je vais prêcher en Malaisie, je rencontre une fille, ça ne marche pas, je rencontre une autre, ça ne marche pas. Et puis, finalement, je rencontre une autre et je reviens. Et en 2008, quand je reviens, j'ai une opportunité qui m'est offerte pour l'Australie. Je lui en parle, mais comme la cassure s'est faite dans mon âme, je ne lui en parle pas pour qu'il me dise oui ou non. Je lui en parle parce que je considère que c'est ma vie, mais qu'il doit être informé. Donc quand il me dit non, je le regarde en mode, à quel moment tu penses que tu peux me dire non et que je vais écouter? Je vais même faire comme toi, je vais faire le spirituel. Je dis non, je vais aller prier. Je dis ça à mon père. Je dis à l'évêque général, je vais aller prier. Oh la chair. Quand tu es envoûté, tu ne le sais pas. Je vais aller prier. Et le boss accepte, il me dit, ok, va prier. Je fais mes 2-3 jours de jeûne. À la fin de mes 3 jours, mon propre père m'appelle. C'est pas moi qui l'appelle, il m'appelle. Il me dit, fils, qu'est-ce que tu as décidé? Et je dis, je pars. Il me dit, ok. La discussion s'arrête là. Mais parce que Dieu m'aime. Je suis dans un culte comme celui-ci. Et pendant que l'homme de Dieu parle, il dit, il n'y a que les fils pour accepter d'être mis sur l'autel et d'être sacrifiés par leur père. Je n'ai pas souvent entendu cette voix, mais ce soir-là, j'entends hors de mon corps une voix à mon oreille droite, à l'extérieur de moi, qui me pose la question suivante. Es-tu le fils de Mike Joctal? La voix ne me dit pas, c'est moi qui ai ouvert la porte, c'est pas moi qui ai ouvert la porte. La voix ne parle pas de l'opportunité. La voix considère que l'opportunité n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la filiation. Et donc, quand je réponds à l'affirmative, par l'affirmative, je comprends que même si je crois que c'est Dieu qui a ouvert la porte d'Australie, si mon père dit non, je ne dois pas la prendre. Attendez, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a des moments dans la vie où on manque de discernement et on ne le sait pas. Le seul moyen que Dieu a pour nous sauver, c'est d'avoir mis au-dessus de nous quelqu'un dont la voix est plus forte que la nôtre. Dans la vie, tu ne verras pas tout clairement. Tu vas te tromper. Mais ce qui est dangereux, c'est si tu te trompes et tu n'as personne. Au final, beaucoup d'entre vous, vous perdez du temps. Parce que quand vous êtes dans ces moments de décision, il n'y a aucune voix sur la terre qui soit plus forte que la vôtre. Ta propre mère qui t'a c'est quoi comme on dit? Nakine. Ta propre mère qui t'a poussé. Elle t'a accouché. Elle te dit, ah mon fils, la fille là je ne la vois pas claire. Maman je l'aime. Maman je suis amoureux. Ah ma fille, le gars là me paraît pas clair. Il est bizarre. Non, en tout cas, tu es contre mon mariage. C'est la sorcellerie que vous faites dans la famille. C'est à cause de ça on vous connaît. Puis au final, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Et puis là, tu te dis, si j'avais écouté maman, si j'avais écouté papa, j'aurais gagné en temps. Si tu acclames, c'est pour toi-même. Il ne faut pas d'abord acclamer pour les autres. Attendez. Ce soir, on priera et Dieu va faire des restaurations, c'est ce qu'il m'a dit. Mais attendez. À quoi ça sert que Dieu te restaure et que tu refasses les mêmes erreurs? On a prié, l'affaire prend. Finalement, ça se décante. Le visa sort. Finalement, c'est bon, tu te maries. Et puis dedans, tu fais encore la même folie. Vous dites que moi, personne ne me parle. Comment les gens me connaissent? Comment je suis fâché? En tout cas, je dis aux gens leurs quatre vérités. Ma boule, folie. Ma boule s'est sortie seule. Mais folie, c'est biblique. Ça, au moins, c'est biblique. Insensé. Qui t'a ensorcelé? L'un de mes plus grands secrets dans la vie, et j'ai débordé, mais ce n'est pas grave. Ma plus grande fierté, mon plus grand accomplissement selon moi, ce n'est pas d'être père, ce n'est pas d'être évêque, ce n'est pas d'être pasteur, ce n'est pas d'être prédicateur, ce n'est pas d'être utilisé par Dieu. Ma plus grande fierté, c'est d'être un fils. Parce que je sais que le jour où je me trompe, je ne suis pas orphelin.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.